Christophe Duquesne aurait dû être avec nous aujourd'hui à cette journée. Et malheureusement, il s'est retrouvé en déplacement. Et donc, on a décidé de procéder un peu autrement et que j'allais pour l'occasion lui prêter un petit peu mon corps et ma voix pour faire une présentation du dispositif Onde qui a été réalisé par cette compagnie qui s'appelle La Voix du Luthier. Alors, le dispositif Onde, c'est le résonateur que vous voyez devant vous. C'est ce dispositif-là, c'est cette très, très élégante boîte. Et donc, on va explorer un petit peu ça ensemble au cours d'un entretien qu'on a réalisé. Donc, c'est un programme qui est un peu connexe parce que, vous le verrez, ce dispositif, il a un rapport avec la musique à l'image. Donc, c'est aussi une recherche actuelle sonore qui s'engage avec le projet Horizon Europe Reboot sur le film, dans lequel on fait un élément sur la musique de film et qui nous permet aussi d'inviter Mécanique Vivante aujourd'hui. Donc là, Christophe Duquesne travaille aujourd'hui dans cette compagnie qui s'appelle La Voix du Luthier et pour la construction de ce qu'il appelle lutherie augmentée digitale. Et dans son parcours, on va essayer de voir un petit peu rapidement ce qui a fait son parcours, mais il a participé, il a été sound designer avant tout dans plusieurs compagnies. Il travaille aujourd'hui, il travaille à Expressive E, et puis dernièrement, il a été collaborateur de Hans Zimmer pour la BO du film Dune 2. Donc il a commencé son parcours en étant le sound designer du Continuum de chez Aiken, et dont tout à l'heure vous verrez une démonstration par Gino Mariotti qui va suivre. Le Continuum, c'est cet instrument-là. Gino, je peux juste un tout petit peu le lever, c'est possible? Okay. C'est cet instrument-là, en fait, qui est là. Et qui est un instrument continu, en fait, qui reprend, disons, un peu le design des ondes Martenot, pour faire simple. Pour ceux qui connaissent, ça a une bande sur laquelle on peut aller y faire des glissando. Et Expressive E, c'est aussi la compagnie qui vient de sortir ce clavier qui s'appelle le clavier Osmose, et qui est un clavier pareil, multiparamétrique, dont tout à l'heure Gino nous expliquera quelques éléments. Alors Christophe Duquesne, lui, a travaillé sur ces interfaces chez Aiken, c'est-à-dire que on a une interface de jeu, mais aussi au départ on n'avait pas de moteur de synthèse, on était juste avec un contrôleur. Et le moteur audio, il a été ensuite développé avec des sound designers. Et une partie du travail de Christophe Duquesne a été de penser en fait le moteur audio. Donc, ce qui était intéressant dans l'entretien qu'on a eu pour préparer la conférence, c'est que pour Christophe, la question du moteur de synthèse, de la manière dont on pense le moteur audio, elle est intrinsèquement liée au geste. C'est-à-dire que le geste, la manière dont le corps va effectuer les gestes de production sont reliés avec la façon dont on lui-même, en tant que sound designer, va imaginer le moteur de synthèse et la manière dont ça va créer du son. Donc en fait, sur le travail du Continuum, déjà, il estime qu'il y a à peu près 80% d'interaction avec le musicien, déjà, et après 20% sur la création du son, qui est finalement un miroir de ces questions d'interaction, et aussi de la manière dont, en fonction des musiciens, on va imaginer ça. Donc ce qui était intéressant pour notre journée aujourd'hui, c'était que la manière dont le design sonore, dont la conception des moteurs de synthèse audio était implantée dans l'instrument, était pensée en fonction des mécaniques de jeu. Et donc là, la lutherie digitale rejoint quelque part des questions de lutherie plus traditionnelle, c'est-à-dire la résultante sonore et la technique de jeu est pensée dès le départ dans l'implémentation de l'instrument. Bon, ça, c'est juste censé fonctionner comme une vidéo. Okay. Excusez-moi. Je vais juste avancer parce qu'on va le voir en démonstration après. Et c'est pour vous donner une idée de la manière dont on pense le geste sur ce type d'instrument. Ça rejoint un peu ce que Gaël expliquait ce matin, ce qu'on a vu aussi avec Martin Kaltenbrunner, c'est-à-dire qu'on essaye d'introduire au maximum dans les possibilités instrumentales différents modes de jeu, différentes modalités d'expression avec des moteurs de synthèse électronique. Donc tout ça, on va passer parce qu'on va le voir en démo ensuite. Donc l'idée du continuum, hein, c'était de créer une expressivité multidimensionnelle sur des surfaces planes avec des mouvements de doigts et avec des systèmes de synthèse sonore embarqués directement dans l'instrument. Finalement, l'instrument devenait autonome. Alors une fois qu'on avait créé un instrument autonome, l'étape qui suit, c'est comment cet instrument qui est autonome et qui a un moteur de synthèse embarqué, on va faire en sorte qu'il puisse sonner. Et surtout, on va commencer à se poser la question de la restitution sonore en essayant de donner une identité et une chaleur au son. La problématique qui se pose, rappelez-vous ce matin, avec Gaël Navarre, on avait vu que pour les instruments, par exemple, dans le cadre des instruments MPE du projet Electronitsa, l'idée c'était de créer aussi un système embarqué autonome. Donc il y avait le développement des enceintes prêtes qui étaient connectées à l'instrument pour créer un module tout en un, pour ainsi dire. Donc là, c'est posé aussi la question de réalisation d'un élément d'amplification et de restitution du son. La voix du luthier a essayé de repenser cette restitution sonore en se disant que lorsque le son suit le circuit digital et qu'il est restitué par les haut-parleurs, quelque part, il va prendre l'identité des haut-parleurs qu'on utilise. Et l'idée qui était derrière l'expérimentation de Christophe Duquesne, c'était de dire qu'on pouvait essayer de construire un résonateur qui est sur le modèle d'instruments acoustiques traditionnels. C'est la table que vous voyez. Donc, en venant d'instruments acoustiques, ça rajoute de l'organique dans le son. Et avec Marc Lucas, qui est luthier à Saint-Hermine, ils ont commencé à réfléchir sur la modélisation de différents types de résonateurs. Donc là, c'est toujours le moteur audio. C'est toujours la même vidéo, excusez-moi. Hop. Donc, les résonateurs qui ont commencé à être conçus, vous les voyez ici, il y en a deux, trois types. Donc, le premier, c'est onde. Le deuxième, c'est la pyramide. Et puis, dernièrement, commence à être développé un résonateur de type amplificateur de guitare. Et ils ont commencé à construire des résonateurs avec des plaques de métal vibrantes sur un peu le modèle de certains résonateurs en métal. Donc, pourquoi d'un résonateur acoustique? Parce que le son du haut-parleur est jamais complètement neutre. Il a un son propre. Il est très directionnel et il s'associe mal avec les instruments acoustiques à cause de cette directivité. Ça permet moins de mélanger les instruments électroniques avec des instruments acoustiques, ou en tout cas de retrouver une ambiance acoustique de jeu. Donc, s'ils ne sont pas, ils font pas partie d'instruments, un autre paramètre qui est très important, c'est que les musiciens ne jouent pas avec le son. Et ça, c'est quelque chose auquel tient beaucoup Christophe Duquesne, c'est-à-dire que le fait d'avoir un résonateur acoustique à proximité de l'instrument électroacoustique permet d'avoir une interactivité avec le son, de jouer avec le résonateur, de créer différentes chaleurs, et en tout cas d'explorer l'instrument électroacoustique de manière complètement différente, liée à la nature du résonateur lui-même. Donc les résonateurs sont vraiment artisanaux, c'est-à-dire que chaque résonateur va avoir une qualité, une couleur complètement différente, avec des matériaux de buterie, on va le voir après, qui permettent aux musiciens électroniques de ressentir ces vibrations. Et donc, la démarche qui est ici assez originale, c'est de prendre le parti pris inverse de l'amplification de l'instrument. Là, c'est plutôt un instrument électronique qu'on va finalement acoustifier, c'est-à-dire qu'on va rendre acoustique par le biais du résonateur. Alors là, c'est évidemment dur en direct de se faire une idée. On verra à la démo tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que chaque résonateur bois va redonner à chaque fois une identité sur tous les sons électroniques qu'on va pouvoir travailler avec. Et on va voir comment cela fonctionne concrètement. Donc, les résonateurs, notamment ici, le dispositif onde que vous voyez, donc ils ont ce qu'on appelle des tables d'harmonie, hein, c'est-à-dire les plaques que vous voyez là, et ils ont des contrôles de volume qui sont ici, derrière. Et à l'intérieur de cette table, les deux tables d'harmonie vont du coup créer un espace sonore omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'elles vont émettre tout autour du champ des tables d'harmonie. Le son, il est censé être très dynamique, et effectivement, il apporte beaucoup de dynamique. Il y a des questions de volume que vous verrez dans la démonstrations qui sont posées, et en fait pour que cela fonctionne, on va utiliser à l'intérieur des résonateurs des transducteurs, et ces transducteurs ils vont donner les vibrations à l'intérieur des tables d'harmonie. Donc le luthier va rechercher globalement la forme et la taille globale du résonateur. Il y a eu un travail expérimental qui a été fait aussi au niveau des évents, c'est-à-dire les trous que vous voyez sur la table d'harmonie qui vous fait face, et également les barrages de la table d'harmonie. Vous pouvez voir à l'intérieur en fait de la table. Les barrages, ce sont des baguettes en bois qu'on va disposer à l'intérieur de la table pour, disons, masquer certaines fréquences et créer une acoustique particulière. Et puis, évidemment, il y a une expérimentation qui a été faite sur le bois lui-même. Donc là, vous voyez l'atelier en action avec la fabrication d'un dispositif onde. Donc vous voyez les baguettes de barrage à l'intérieur du dispositif. Et donc, ce qui était un peu frappant lorsque Christophe Duquesne expliquait un petit peu le principe. Donc, bon, là, on voit les séances d'encollage et la manière dont, en fait, on a progressivement assemblé l'ensemble de l'instrument. C'était que pour toutes les tables ondes que vous avez vues sous l'atelier, chacune des tables a une résonance spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul résonateur qui se ressemble. Et même, il joue avec ça, donc il travaille sur ces espèces de matières vivantes. Hein, que c'était à chaque fois un peu une sorte de découverte et de surprise. C'est le moment où il sortait un résonateur et il le testait pour la première fois. Parce qu'il y avait cette découverte et cet aspect découverte à chaque fois qu'il sortait un résonateur de l'atelier. Bon, on va passer un petit peu le fait que on ait ce caractère unique, possède tous les caractéristiques d'un instrument acoustique traditionnel, hein, avec les conditions d'hygrométrie, de température. Et le fait qu'ils ont insisté sur, et je ne sais pas, sur les utilisateurs, le fait que ça se bonifie avec le temps. C'est-à-dire que plus on va utiliser un résonateur, et apparemment, plus il va sonner. Donc là, vous voyez l'amplificateur de tout à l'heure qui est à côté d'un clavier osmose comme celui que vous avez là. Et donc au niveau de l'appareillage interne, donc vous avez en fait des amplificateurs qui sont dans le boîtier intégré ici, hein, qui est là derrière. Ils vont alimenter deux transducteurs sur des machines qui sont des vibreurs. Donc ils vont transmettre le son est converti ici en influx électrique qui vont suivre les formes de d'onde d'amplitude. Hein. Donc ils vont faire vibrer, au même titre qu'on fait vibrer les aimants du haut-parleur, vont faire vibrer là, des vibreurs mécaniques qui sont contre les tables d'harmonie en bois. Et ces vibreurs vont transmettre la vibration sonore de manière mécanique au bois. Et ensuite, il y a un contrôle de volume séparé pour chaque table qui est ici. Donc en fait, le contrôle de volume qui est là permet de gérer le volume sur les deux transducteurs. Et il y a aussi des entrées qui sont possibles avec du Bluetooth et des alimentations par batterie possibles aussi. Donc là, vous avez les réceptions de planches de bois pour travailler sur les résonateurs. Donc un exemple de travail sur les matériaux ici aussi pour la création. Et puis là, vous avez un exemple aussi de travail sur les baguettes de barrage. Et vous voyez au centre de la table le transducteur. Toujours l'atelier. Ce que vous voyez au centre, c'est le gabarit qui sert à construire le modèle pyramide qu'on a vu tout à l'heure, qui est plus riche en basse. Alors, ici sur cet exemple-là, donc en fait, Christophe explique un petit peu le travail qu'il a eu avec Hans Zimmer sur la BO de Dune. Donc pendant que ça défile un petit peu, donc c'est Hans Zimmer qui est un grand fan de synthétiseurs. On lui a parlé du travail de Christophe Duquesne, notamment sur cette BO. Et donc il a voulu faire appel à lui. Donc et en fait ce qu'il explique, c'est que ils ont travaillé un petit peu sur la bande originale avec le réalisateur. Le réalisateur montrait une séquence de 2 minutes 30 et ensuite avec ces 2 minutes 30, donc Christophe Duquesne, il avait le continuum, donc il jouait au continuum avec le dispositif onde. Et chaque groupe de compositeurs devait proposer une bande-son. Et après, il y avait un mix qui était fait. Et on recréait une bande-son à partir des différentes propositions. Et ce qui a beaucoup intéressé Hans Zimmer dans Dune, c'est justement le résonateur acoustique avec les sons du continuum. Et dans le studio, en utilisant du onde et du pyramide aussi, ils enregistraient le résonateur comme si c'était une guitare acoustique en fait, avec les micros, et pour capter vraiment l'essence du son diffusé par le résonateur. Donc sur ces photos, en guise de conclusion, vous voyez un petit peu tous les résonateurs qui ont été produits par la voix du luthier jusqu'à présent. Notamment un des premiers qui est le résonateur métallique. Donc pour Dune, le résonateur bois et le résonateur métallique ont été utilisés notamment. C'est les deux résonateurs qui ont été apportés et qui ont été utilisés pour créer une des tracks. Et puis le dispositif onde, lui, peut même se porter en bandoulière. Comme une guitare. Donc tout ça nous permet un petit peu de, en guise de conclusion, de penser à toute la chaîne sonore. Donc après, vous verrez en guise de transition la présentation que vous fera Gino Mariotti, qui travaille depuis pas mal de temps sur les gestes d'expression en outil digital dans le cadre de l'Ekinsa et puis de l'ADAP maintenant. Et c'était l'idée de voir que même au niveau de la musique électroacoustique et de la musique électronique, la question des résonateurs et de la diffusion elle était centrale. Elle est centrale parce qu'hier, pour ce qui était au GNLE, vous avez vu le dispositif pré, la réception en haut-parleur, les dispositifs immersifs. Et aujourd'hui, cette question du diffuseur, de la restitution sonore et de briser un petit peu les schémas habituels d'avoir des façades stéréo, etc., c'est quelque chose qui, de plus en plus, dans les expériences qu'on va faire, va avoir des enjeux très importants. Et le dispositif, tous les dispositifs de résonateur bois, de la voix du luthier, sont des choses qui sont aujourd'hui un peu des modèles très identifiés. Que non seulement on a identifié en interne, parce que voilà, ça a été très tôt, par exemple, quelque chose qui avait ciblé Gary Lavard, par exemple, pour l'expérience sur MPE,
mais aussi au niveau de l'Institut des savoir-faire, dans le travail qu'on a autour des métiers d'art, quelque chose qui avait été aussi bien identifié comme process, comme itération remarquable, qui est à la fois une réflexion très moderne, très actuelle sur le sound design, les moteurs web audio, les moteurs audio, les moteurs audio embarqués dans les synthétiseurs et tout ce qui va avec la synthèse, et en même temps, finalement, un retour à des savoir-faire traditionnels, mais qui ici sont, entre guillemets, mis au service de techniques et de technologies très très actuelles et très modernes au niveau de la production sonore. Et voilà, merci pour Christophe Duquesne, qui encore une fois s'excuse de ne pas avoir été parmi nous. Et puis on va pouvoir maintenant expérimenter un petit peu plus ces résonateurs et cette musique électronique. Et bien sûr, si vous avez des questions, on peut avoir un temps d'échange. Merci beaucoup.